18h à Niamey, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal en français avec Rouké et Top Drama. Les titres. Le transfert et l'organisation du concours de santé à l'Office des examens ONEX et le paiement des frais de formation des boursiers de l'État, des motifs qui ont conduit l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey à suspendre les activités académiques ce mardi 11 décembre à Niamey. Une centaine de réfugiés soudanais en sitting aujourd'hui devant le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies à Niamey. Ils exigent leur réinstallation dans d'autres pays d'accueil alors que rien n'est encore programmé à ce sujet. Les échos dans ce journal. En fin d'édition, nous allons joindre au téléphone notre envoyé spécial à Katowice en Pologne pour un bilan à mi-parcours du sommet mondial du climat, la COP24. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Toute la chaîne d'encadrement du centre d'instruction de Tondibia où sont formés militaires et paramilitaires du Niger, y compris le directeur de cette école et le médecin traitant, cette chaîne est relevée. C'est la décision énergique prise, rapporte plusieurs sources, par le ministère de la Défense nationale après la mort atroce et dans des conditions non encore élucidées la semaine dernière d'un officier d'actif de 22 ans pendant sa formation dans ce centre. Information reprise aussi bien par les médias sociaux et les médias traditionnels hier lundi, jour de la mise en terre du jeune pilote Chombiano Talata Shamsuddin destiné à servir l'armée de l'air. Selon des sources concordantes, une enquête est ouverte depuis samedi et toutes les procédures administratives et judiciaires se poursuivront et les mises en cause répondront de leurs crimes, a affirmé le ministre nigérien de la Défense Kalla Moutari, cité par les médias locaux. Hier, en fin de journée, c'est un rappel, la circulation sur le pont Kennedy de Niamey était bloquée à cause d'un mouvement des étudiants de l'université et la présence des forces de sécurité en position à proximité du mur du campus universitaire. Le non-paiement de 14 mois d'arriéré d'aide sociale et les nouveaux critères de sélection des bénéficiaires de l'aide sociale sont entre autres les raisons de ce mouvement. C'est ce qu'explique le secrétaire général de l'UNUN, le syndicat étudiant Arifa Hassan, au micro de Moussa Hassan.
Depuis 5 mois, aucun mouvement, aucune grève n'a été déclenchée jusqu'à ce que nous constations que de la part du gouvernement, il y a une certaine mauvaise foi au niveau du traitement des dossiers de l'aide sociale. Dans une université qui compte aujourd'hui un peu plus de 21 000 étudiants, qu'on vienne faire une étude de dossier, qu'on ne sélectionne que ceux qui sont à licence, nous disons qu'il y a péril à la demeure. Et il faut rappeler que les étudiants n'ont pas demandé grand-chose. Ils n'ont demandé que leur dû. Et qu'on constate qu'il y a un budget de plus de 2 000 milliards qui est adopté par l'État et que dans ce budget, on n'est pas capable de consacrer un peu plus de 2 milliards. Nous considérons que c'est de la moquerie et face à ça, nous allons répondre. Nous avons commencé à poser des actions et ces actions ne feront que partir de façon échelonnée. Au vu de l'appel du médiateur de la République qui nous a demandé d'obtempérer et d'observer, nous avons décidé de ne pas agir comme nous avons voulu le faire.
L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey suspend pour la journée d'aujourd'hui, mardi 11 décembre, toutes les activités académiques au sein des instituts et écoles professionnelles et techniques de la capitale. Selon son secrétaire général, la structure exige du gouvernement le transfert et l'organisation du concours de l'examen unique de certification en troisième année de santé à l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX ainsi que le paiement des frais de formation de tous les boursiers de l'État. Ibrahim Moukaila est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Notre mode d'ordre s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est par rapport au non-paiement des frais de formation de nos camarades boursiers dans les différents instituts et écoles professionnelles du Niger en général et de Niamey en particulier. Le deuxième point, c'est par rapport à la dotation en matière d'œuvre des centres de formation dans un centre technique où il n'y a pas de matière d'œuvre. Donc, avec quoi les apprenants vont appliquer? Le troisième point, c'est par rapport au transfert de l'examen unique de certification en santé. Nous ne pouvons pas comprendre à chaque fois, il faut que la date de l'examen s'approche pour qu'ils mettent un comité en place et lui confient l'organisation de cet examen. Or qu'il y a un office reconnu pour l'organisation des examens et concours. Nous avons demandé à ce qu'on transfère l'organisation dans les mains de l'ONEX pour un diplôme en santé crédible.
L'enseignant-chercheur et rapporteur général de la Commission nationale des droits humains CNDH du Niger, Dr Hamidou Talibi Moussa, a animé hier à l'Université de Tawa une conférence axée sur les droits humains et la paix. Le conférencier est parvenu à conclure que pour qu'il ait paix et réalisation des droits humains, il faut une gouvernance démocratique qui apporte une croissance menant à la répartition des richesses et l'accomplissement d'une justice sociale. Dr Hamidou Talibi, joint au téléphone par Kouzé Alassa Mamadou.
Dans mon exposé, j'ai essayé de montrer que ce qui est permanent plutôt dans l'histoire du monde, c'est plutôt la violence, ce sont les guerres. Et aujourd'hui, la violence a pris de forme incroyable avec le terrorisme. Mais la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que pour qu'il y ait autant la paix que la réalisation des droits humains, il faut qu'il y ait une gouvernance démocratique qui va essayer de mener des politiques publiques en vue d'apporter la croissance. Et que lorsque nous avons la croissance, il faut que cela se ressente aussi au niveau des populations, qu'il y ait une répartition équitable des richesses en termes d'infrastructures, en termes de politique, en termes de jouissance d'un certain nombre de droits. Et il faut que l'État ait le sentiment aussi d'appartenir à une entité qu'on appelle l'État.
Notons que cette thématique a été développée à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Tournons la page, section du Niger, une association regroupant des défenseurs des droits humains a reçu hier à Paris en France le prix des droits de l'homme de la République française. Le prix a été remis au coordonnateur pays, le Nigérien Michael Zodi, par la ministre française de la Justice lors d'une cérémonie organisée à cet effet à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quatre autres lauréats internationaux ont reçu ce prix de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de la République française. Plus de 100 réfugiés soudanais étaient aujourd'hui en sitting devant le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Niamey. Ils dénoncent un traitement discriminatoire dont ils seraient victimes et demandent d'être réinstallés dans des pays d'accueil au même titre que les autres réfugiés. Younoussa Abar Ibrahim, réfugié soudanais, décrit leur situation au micro d'Alassane Kouzi Mamadou.
Et amenez-nous ici à Niamey depuis mois après. Et on est arrivé ici pour trouver nous la solution. Mais jusqu'à maintenant, aucune solution. Mais il amène les Éthiopiens et Somaliens et Érythréens. Et il laisse les Soudaniens dans les papiers pour aller en Europe. Mais pour nous côté, il nous dit qu'il n'y a pas de pays qui accepte les migrants soudaniens ici au Niger. Et par rapport à ça, il nous dit que celui qui accepte et rester ici manger, travailler, je lui donnerai une carte sociale pour rester avec les Nigériens. C'est ça qu'on a refusé. Et il nous donne 24 heures pour quitter la maison. Par rapport à ça, moi, j'ai venu ici me connaître mes droits, comme les autres migrants.
Pour la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger, qui dit comprendre leur frustration, les réfugiés soudanais doivent prendre leur mal en patience. Il n'y a pas de programme de réinstallation prévu pour eux pour le moment. Alexandra Morel est interrogée par notre reporter Kouzi Mahamane.
Il y a un projet de l'ETM qui est lié à un accord que l'OHCR a fait avec le gouvernement du Niger d'évacuation directement des centres de détention de la Libye vers le Niger en transit. Et donc ces gens vont dans des pays tiers. Pour les Soudanais, ce projet de réinstallation n'est pas encore prévu.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le cas du Soudan ? C'est parce que c'est un pays anglophone ou...
Non, la plupart de ces Soudanais viennent du Tchad. Ils ont été déjà reconnus comme réfugiés là-bas. Techniquement, c'est le Tchad qui les protège. Logiquement, c'est au Tchad qu'on fait la réinstallation. Malgré les efforts à leur dire qu'il faut avoir patience, qu'ils sont quand même dans un pays qui les a accueillis, ils sont dans un pays qui les nourrit, ils sont dans un pays qui leur a donné un toit, ils sont en train de vivre un moment de frustration. On les comprend, on les écoute et on gère.
Le pacte mondial sur les migrations, c'est un rappel, a été approuvé hier à Marrakech au Maroc par la conférence intergouvernementale des pays participants. Selon Hassan Boukar de l'association alternative du Niger, la protection des migrants, la libre circulation qui sont des attentes de la société civile sont peu prises en compte dans ce pacte mondial sur la migration.
On se rend compte que les attentes qui sont les attentes de la société civile en matière de protection des migrants, en matière de libre circulation, ces dimensions sont peu prises en compte dans le texte. Nous avons beaucoup d'appréhension quant à ce qui va véritablement changer. On a comme l'impression que les pays d'accueil, qui sont aussi les pays dominants sur la scène internationale, ont finalement fait passer leur point de vue à travers ce processus. Et du coup, ce qui était la politique de l'Union européenne, la politique des États-Unis, finalement, ça se retrouve en grande place dans ce pacte. Notre souhait, nous, que la libre circulation soit respectée, que les va-et-vient des migrants soient beaucoup plus facilités. Si on le ramène à notre échelle africaine, les questions des raquettes et autres qui se font et tout ça, il y a le discours, mais dans la réalité, je n'ai pas l'impression que quelque chose peut véritablement changer.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Plus d'un millier de manifestants ont traversé samedi Katowice dans le sud de la Pologne pour demander aux participants à la conférence mondiale COP24 d'agir rapidement en faveur du climat. Il n'y a pas de planète B, sauver le climat maintenant. Oui aux énergies renouvelables, les éoliennes, le charbon doit partir, un charbon propre et un sale mensonge était lisible sur les banderoles. Pour le jeune protecteur de l'environnement du Niger, la marche vise à booster les décideurs et les négociateurs à prendre des décisions à la hauteur des enjeux actuels. Sané Ayouba est au micro de Habib Garba.
Ici, la marche a été organisée par l'ensemble des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les organisations de la société civile qui participent à la COP. Donc, c'était vraiment de maintenir l'urgence climatique et de rappeler les décideurs, les négociateurs qu'il est très important de prendre des décisions à la hauteur des enjeux actuels. Donc, vraiment, le maintien de la température en deçà de 1,5 degrés, la sortie de l'utilisation des énergies fossiles, la révision des contributions nationales déterminées. Chacun vit en fonction de son centre d'intérêt par rapport à la question environnementale à travers les slogans pour montrer qu'il est vraiment urgent d'agir maintenant pour lutter contre le changement climatique.
Et puis la partie magazine de cette édition, le sommet mondial du climat, la COP24 qui a débuté le 3 décembre en Pologne, entre dans une seconde semaine consacrée à la négociation politique des textes pouvant permettre la mise en œuvre des accords de Paris établis en 2015. Retrouvons Assoumane Achina, notre envoyé spécial à Katowice pour un bilan à mi-parcours joint au téléphone par le studio Kalangu. Assoumane Achina, bonjour.
Bonjour, Rukaya.
Alors, quel bilan pouvons-nous tirer de cette première semaine de la COP 24?
Donc, la COP avait débuté ici avec trois enjeux majeurs. Premièrement, définir une feuille de route des accords de Paris. Comme prévu, un premier texte a été finalisé samedi soir par les délégations et remis aux représentants politiques qui ont déjà commencé les négociations ce lundi. Ils ont jusqu'au vendredi pour se mettre d'accord. Que sait-on donc sur ces textes? Peu de choses ont filtré, mais le président de la COP a avoué en conférence de presse que les avancées étaient compliquées et devenues très techniques. C'est d'ailleurs un point qui nous a été confirmé par le président du groupe Africa Seminafo. Deuxièmement, rehausser l'ambition de chaque pays en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, ce qui est prévu tous les 5 ans dans l'accord de Paris. Le dernier rapport du groupe d'experts sur le climat, présenté en octobre dernier, conclut en effet que l'objectif de contenir le réchauffement sous les 2 degrés est presque illusoire, sauf si les pays s'engagent sur une voie radicale. Sur ce point, deux blocages persistent. Les États-Unis, le Koweït, l'Arabie Saoudite et la Russie s'opposent à la validation de ces derniers rapports du GIEC. L'Australie, le Brésil et les pays hôtes, la Pologne, ont déjà annoncé qu'ils s'opposaient à cette révision pour 2020. Troisièmement, donc, c'est la solidarité internationale, c'est-à-dire les contributions financières venant principalement des pays développés pour mettre en œuvre les actions climatiques et les projets d'adaptation dans les pays les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le flou. 56 des 5 milliards prévus sont collectés. Seule l'Allemagne et le Japon se sont engagés à augmenter leurs contributions.
Et China, il y a également des demandes très précises des ONG internationales sur le plan des droits humains.
Absolument. Les ONG demandent depuis 2 ans que la notion de justice climatique, l'insécurité alimentaire et la participation des populations locales figurent dans le texte. La seule avancée de la version du texte bouclé ce week-end concerne l'intégration des populations locales dans le processus. Donc, les 2 prochains jours sont cruciaux, notamment pour les ONG, Rukaya.
Merci, Chine. C'est la fin de ce journal-là. Au revoir.